penser et dire sa foi. Une émission proposée par Jean-Michel Poirier. Penser et dire sa foi. Une émission en dialogue animée par des enseignants et des étudiants de l'IURP à Toulouse.
Bonjour Vincent Grégoire Delory.
Bonjour, bonjour à tous.
Nous sommes heureux de vous retrouver. Vous êtes enseignant à l'IURP et je rappelle que vous donnez deux cours, l'un d'introduction à la métaphysique et un autre intitulé « Foi et raison ». Et j'ai oublié de dire que vous avez au moins une double, voire une triple formation, puisque vous êtes à la fois philosophe, vous êtes également un scientifique et puis un théologien aussi quelque part.
Très modestement alors. Hein.
Alors donc, la fois précédente, on a surtout développé cette idée selon laquelle dans la science ou dans la démarche scientifique, il y avait évidemment une grande part de raison, mais vous nous avez dit aussi qu'il y avait une grande part d'intuition, de rêve, de pari aussi que l'on peut faire, hein, qui parfois peut revêtir d'ailleurs des aspects un peu fous. Hein. Alors, face à cela, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que la foi que, donc spontanément, on place du côté plutôt de la confiance, mais déraisonnable, ou en tout cas non raisonnée, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que la foi, du moins telle que les chrétiens la comprennent, donne à penser ?
Si nous reprenons le terme là que nous avons utilisé, la foi percée, quand nous avons parlé de rêve, et si mes souvenirs sont exacts, le mot rêve, c'est aussi le mot songe, c'est un songe. Et je crois qu'en latin, ou en tout cas en latin médiéval, sognare, qui veut dire songer, qui veut dire soigner. Finalement, quand nous soignons, quand nous sommes dans une relation de soins, nous sommes dans une relation de rêve commun. Et le rêve, ce n'est pas un rêve complètement absurde. C'est un rêve commun de construction commune. Recevoir la foi, c'est évidemment l'ouverture à quelque chose, à l'infiniment grand, à cet infini que je ne peux même pas penser, ce nom qui est au-dessus de tout nom. C'est aussi une relation simple que je vais puiser au sein des évangiles, une relation à quelqu'un qui a vécu à un temps donné. C'est aussi une ouverture beaucoup plus large d'un fondement commun, d'une vie commune, d'une humanité commune, vivant sur des valeurs communes. Donc effectivement, cette foi qui invite au rêve, ou ce rêve plutôt, ce rêve commun, ce songe commun de l'humanité, qui nous invite à le construire d'une certaine façon. Il ne s'agit pas de rêver pour rêver. Il ne s'agit pas de dire, comme parfois on l'entend, et c'est d'ailleurs très joli, moi on entend dire, oui, je suis très humaniste, j'ai foi en l'homme. Oui, pourquoi pas. Mais concrètement, comment construit-on finalement ce que nous recevons ? Que nous le construisions par une pensée plus intellectuelle, par la théologie, par l'exégèse, ou que sais-je encore, mais que nous le construisions aussi dans les relations intersubjectives, dans notre façon, d'ailleurs on le dit bien, de vivre notre foi. Or, vivre notre foi suppose effectivement parfois que notre raison intervienne, et notre raison, on la retrouve facilement, bien sûr, dans notre discernement moral. On le sait bien. Quand on dit ou quand on fait des choses pas extraordinaires, on sait bien qu'il y a des raisonnements qui nous poussent à nous trouver nous-mêmes devant des contradictions. Et donc, effectivement, cette foi n'est jamais laissée à elle-même, et ce n'est pas non plus un rêve laissé à lui-même, c'est un rêve qui passe, me semble-t-il, par ce désir, encore un désir commun, de construire ensemble. Et ça, je pense que ça fait partie probablement des choses que l'on peut retrouver, qui sont peut-être les plus difficiles, puisque, vous savez, on entend souvent aussi dire, moi, je crois en un Dieu, je suis agnostique, je crois en un Dieu, une force, que sais-je encore, ce qui est tout à fait... on entend très souvent. Mais par contre, l'Église, non. Ça, quand même, il ne faut pas exagérer. Ça, non, du tout. Or, l'intérêt, c'est justement de voir en quoi la foi chrétienne en Église construit quelque chose. Construit avec une vraie rationalité, construit avec des briques, construit avec des valeurs, et on construit quelque chose. Ce n'est pas du hasard, ce n'est pas un rêve. Un rêve commun n'aurait jamais duré bien longtemps.
D'ailleurs, on avait dit la fois précédente que la raison était aussi une démarche collective.
Oui.
on s'éclaire les uns les autres, on s'éclaire aussi grâce à la tradition, grâce à ceux qui ont pensé avant nous. D'ailleurs, si on pense, c'est parce qu'il y en a d'autres qui ont pensé avant nous, qui nous ont donné des outils, qui nous ont donné une langue, des modus, des process, etc. Dans la foi, il en va pareillement. C'est-à-dire qu'on ne croit jamais à nu. Il y a dans la foi un domaine, quelque chose qui est reçu et qui donc se construit dans une relation. Donc vous êtes en train de nous parler surtout de la dimension... Enfin, en termes chrétiens, la dimension ecclésiale, finalement.
Dimension ecclésiale, et comme vous le dites très bien, vous qui êtes théologien, pour beaucoup aussi de nos contemporains, on a l'impression qu'il y a une sorte d'idée selon laquelle, finalement, la théologie, c'est un ramassis de phrases un peu bizarres qui viennent un peu n'importe où. Et quand on montre que la théologie est une science, avec une rationalité, qu'il y a une construction, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi de n'importe quelle manière. On sait très bien que les théologiens sont très sourcilleux sur la façon dont les textes sont écrits. Quand un étudiant écrit de la théologie, il faut quand même que ce soit bien construit, avec une logique impeccable et avec évidemment un fondement. Et donc effectivement, on s'aperçoit que c'est là où on s'aperçoit que la théologie est une science extrêmement exigeante. C'est une très grande exigence, et cette exigence est une exigence de raison rationnelle, parce que ça demande du travail, ça demande beaucoup, beaucoup de lecture, beaucoup de mise en perspective de notions difficiles, et là on s'aperçoit que la rationalité, elle est là. Et donc effectivement, c'est étudier la théologie, c'est-à-dire mettre la foi, si je puis dire, ce que je reçois par ma foi, c'est indicible. La relation que nous pouvons voir chacun avec le Christ, c'est assez indicible. En revanche, nous nous mettons en commun, dans cette relation en commun, sur le plan ecclésial, nous mettons en commun un certain nombre de mots, de concepts, mais pas que, d'actions, de façons d'être, qui nous ramènent à cet ensemble commun de notre foi qui, elle, se dit. Je pense qu'il y a une partie vivante qui ne se dit pas, qui est intime, c'est une rencontre, mais il y a aussi celle qui se dit. Celle qui se proclame, celle qui s'annonce. Et nous le voyons bien à l'Institut catholique, nous voyons bien que c'est non, cette annonce, toute simple aussi, parfois uniquement par nos actes, ou que sais-je encore, par des questions que nous pouvons poser, et de montrer qu'il existe une rationalité, une vraie rationalité chrétienne, qui répond à des questions de société, et des questions de société, on voit bien que de génération en génération, je dirais même d'année en année, de nouvelles questions de société se succèdent, demandant de mobiliser des savoirs, par exemple scientifiques certes, mais philosophiques, éthiques, théologiques.
Et c'est peut-être bon de se rappeler ici à Toulouse, nous avons les restes d'un grand théologien, saint Thomas d'Aquin,
son chef,
voilà, qui précisément a, en son temps, développé de manière magnifique une certaine rationalité de la foi, en faisant intervenir précisément la raison, en discutant les opinions et des uns et des autres, et en proposant un vrai raisonnement.
Oui. Tout à fait, c'est-à-dire que si nos auditeurs veulent se pencher ou mettre leurs yeux sur des textes de saint Thomas d'Aquin, ce sont des textes extrêmement bien construits, rationnels, qui ne laissent place à aucun...
Argumenté.
Tout complètement argumenté, ça ne laisse pas la place à je sais quelle folie passagère, donc il faut que tout soit argumenté et pour que les solutions proposées puissent être au moins audible ou en tout cas compréhensible par le plus grand nombre. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est comment rendre une foi personnelle. Votre relation au Christ et la mienne, c'est difficile, on ne va pas la comparer. En revanche, on va la situer au sein d'un ensemble, au sein de l'Église. Et effectivement, des grands penseurs, des grands, comme saint Thomas d'Aquin, vont permettre de laisser à cette pensée chrétienne un côté universel, lisible, compréhensible par toute rationalité humaine.
C'est-à-dire que par l'aspect rationnel de la foi n'est pas que rationnelle, mais elle a un aspect rationnel,
tout à fait.
Elle peut parler, ou en tout cas elle peut faire parler un certain nombre de ces éléments à des personnes qui ne ressentent pas, ou qui ne sentent pas, si je puis dire, la présence de Dieu, ou qui ne se sentent pas en relation avec Dieu, mais qui peuvent être néanmoins saisies par... le fait que la rationalité de la foi a des choses à dire et qu'elle convoque également l'esprit. Alors, De fait, en théologie, on peut dire que la raison est également un don de Dieu. Alors, c'est-à-dire que Dieu nous a donné la raison aussi pour le connaître.
C'est l'introduction de l'encyclique Fides et Ratio de Jean-Paul II. Mais je pense qu'en effet, ce que vous dites, c'est qu'il ne faudra donc pas confondre toutefois, je vais caricaturer un petit peu en disant ça, le Dieu des philosophes et le Dieu de la révélation. Car en effet, en philosophie, uniquement conceptuellement, on peut s'amuser à chercher la question de la régression des causes à l'infini, par exemple. Aristote l'avait déjà fait, on peut aboutir à ce fameux premier moteur immobile, cette cause incausée, si je puis dire. On peut ainsi, par d'autres types de raisonnements, aboutir à des concepts. D'ailleurs, Saint Anselme de Canterbury avait aussi travaillé sur ces questions-là, comment parler finalement de Dieu en tant que philosophe, en remontant. Et donc on peut trouver, de façon purement rationnelle, on peut arriver soit à des impasses de la pensée, soit en tout cas à développer des concepts que l'on peut définir sans en avoir le moindre accès. Un premier moteur immobile où ce que contient le temps et l'espace, qui est ni temps ni espace, nous est inaccessible, mais on peut le poser. On peut donc effectivement poser un certain nombre de concepts philosophiquement qui nous amènent à l'éternité, par exemple, à penser l'éternité ou à penser le premier moteur immobile. Mais tout cela, ce sont finalement des résolutions de causes, je dirais presque mécaniques, ou en tout cas géométriques, qu'on ne confondra pas avec le Dieu de la révélation qui, lui, a un nom et qui a une toute autre profondeur. C'est-à-dire qu'on peut arriver par une raison pure, si je puis dire, sans vouloir être trop présomptueux, à montrer l'existence de concepts difficiles d'accès, mais tout autre chose, et de le croiser avec la foi de Dieu révélé.
Autrement dit, la démarche rationnelle peut nous montrer que la foi n'est pas irrationnelle, précisément, peut nous amener à nous poser des questions métaphysiques, mais elle ne peut en aucun cas se substituer à ce qui est au cœur de l'expérience religieuse, qui est la rencontre.
Je crois.
Personnel,
je crois,
avec Dieu. Oui. Merci Vincent Grégoire Delory.
Avec grand plaisir.
Et nous vous Merci donnons vous. Rendez-vous, chers auditeurs, à la semaine prochaine afin de poursuivre cette réflexion absolument passionnante. Merci Vincent.
Merci à vous.